France Inter.
Anthropologue et ancien professeur à l'EHESS et au Collège de France où il a tenu la chaire d'anthropologie de la nature pendant près de 20 ans, Philippe Descola a soutenu sa thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss avant de partir 2 ans en Amazonie entre le Pérou et l'Équateur pour le CNRS afin d'étudier les relations à l'environnement des Amérindiens Jivaros Achuar. Il découvre alors que la nature n'existe pas et nous éluciderons l'idée au cours de l'émission. Auteur de l'ouvrage de référence Par-delà nature et culture, cette figure majeure de la pensée écologique ayant défini un structuralisme ontologique, et je ne lésine pas sur les termes techniques, a aussi rédigé Les formes du visible, qualifié par Le Monde d'événements qui révolutionnent l'histoire et la théorie de l'art, la géographie de notre monde et l'idée que l'on se fait des relations entre les hommes, les dieux, les animaux et les plantes. Face à l'ampleur de la crise environnementale, l'anthropologue invite à inventer des formes alternatives d'habitation du monde et d'organisation entre humains et non-humains. Un cahier de l'Erne dirigé par Grégory Delaplace et Salvatore D'Onofrio vient de lui être consacré. On retrouve dedans des inédits de Philippe Descola, des extraits de sa correspondance avec Lévi-Strauss et des textes de Bruno Latour, Georges Didier Huberman, Pierre Michon ou encore Jacques Rancière. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir Eva Bester.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
J'ai pensé à ce sur quoi j'étais en train de travailler. J'ai passé une grande partie de la journée à ma table de travail, qui est une réflexion que je mène depuis quelques temps sur la notion de cosmopolitique, c'est-à-dire une politique qui ne se limite pas aux relations entre humains, mais qui serait capable de faire droit à la présence et aux multiples formes d'attachement et de relations que nous entretenons avec les non-humains. Et j'ai une réécriture de conférence que j'ai donnée à l'université de Berkeley il y a 2 ans et sur laquelle je suis en train de travailler. Et j'ai pensé aussi à Quincy Jones.
Ah oui, bah oui, qui est disparu aujourd'hui.
Voilà, j'ai réécouté Bossa Nova, c'est un musicien que j'appréciais beaucoup.
Dans le cahier de l'Erne, on peut lire le sermon que vous aviez rédigé pour le nouveau millénaire en 2000. Oui. Et vous souhaitiez dedans l'aube radieuse d'un monde où tout est relation. Est-ce que ça va avec l'idée que vous venez de développer ?
Oui, un peu. Il faut peut-être replacer le contexte. Nous étions quelques amis. Il y avait notamment Bruno Latour, que vous avez mentionné tout à l'heure, et un grand ami brésilien, Eduardo Viveiros de Castro. Et nous étions réunis dans un château d'un ami. Au lieu de fêter, comme tout le monde, le troisième millénaire à venir, nous avions décidé de fêter le deuxième millénaire en essayant d'imaginer autrement que ce qu'il a été. Et on m'avait confié la mission de faire un sermon. Et donc j'ai fait un sermon, en partie en latin. J'ai mobilisé le Gaffio et mes souvenirs d'école. Et l'idée était la suivante, c'était une prédiction de la Vierge sur ce qui allait arriver dans ce deuxième millénaire. Et il y avait le début de ce que j'ai appelé ensuite le naturalisme, c'est-à-dire au fond la modernité, ce qui s'est passé à partir, disons, du XVIIe siècle, dans lequel une nouvelle façon de voir les choses, de penser les choses, s'est installée d'abord dans les élites, chez des grands penseurs comme Bacon ou Descartes, et qui séparait vraiment de façon drastique les humains des non-humains, la nature comme un champ d'investigation et une ressource à exploiter, et puis d'autre part les humains et leurs caractéristiques propres. Et puis j'imaginais que suite à la conquête de l'Amérique, les Amérindiens allaient s'emparer des armes que les Européens avaient amenées et envahir à leur tour l'ancien monde et y introduire des nouvelles formes de pensée qui mettraient fin à ce que j'ai appelé donc le naturalisme. Et peut-être que nous sommes en ce moment dans une situation, sinon de ce type, en tout cas qui s'approche au fond de ces ébranlements que j'appelais de mes voeux.
Vous êtes un peu révolutionnaire, si je puis me permettre.
Écoutez, oui, c'est quand on voit l'état présent du monde, il est difficile de ne pas l'être.
Oui. Vous faites toujours beaucoup de conférences et vous considérez comme un devoir de faire connaître au public les résultats de votre travail. Dans l'introduction, Philippe Descola, j'ai parlé de votre structuralisme ontologique qu'on peut saisir en étudiant votre pensée, mais les termes peuvent effrayer ceux qui n'en sont pas familiers. Alors afin de les rendre accessibles, j'aime beaucoup demander ça à chaque fois quand un concept est un peu difficile. Comment expliqueriez-vous ce dont il s'agit à un enfant de 10 ans ?
Oui. Alors, c'est des termes que je n'emploie jamais personnellement.
J'imagine, évidemment, c'était pour crâner.
Même dans mes cours. L'idée est à peu près la suivante. Pourquoi structuralisme ? C'est que le structuralisme est fondé sur l'idée que le monde est fait de différences. Et que si l'on veut comprendre quelque chose au monde, ce ne sera pas en essayant d'établir des ressemblances entre ces choses qui diffèrent, mais au contraire, de comprendre comment ces différences diffèrent entre elles. C'est tout simple, au fond, et c'est ce que Claude Lévi-Strauss nous a transmis comme modèle de pensée, et qu'il avait lui-même acquis de la linguistique, de la phonologie structurale. Ontologie, pourquoi ? C'est l'idée, tout simplement, que les humains font monde, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent, ils détectent dans leur entourage des éléments qui sont plus ou moins significatifs, et qui vont construire dans des mondes signifiants, au sein desquels ils vont se retrouver à l'aise, en quelque sorte. Donc, ils vont construire un mobilier, ils vont édifier au cours de leur socialisation, de leur éducation et de leur croissance, un mobilier particulier composé d'objets qui vont différer en fonction non seulement des milieux physiques et sociaux, mais aussi des choix qu'ils font de prêter de l'importance à telle ou telle chose, ou d'en ignorer telle ou telle autre. C'est ça l'ontologie. L'ontologie, c'est le mobilier du monde. Et c'est ce mobilier qu'on se construit, chacun d'entre nous, et qui, pour certains d'entre nous, se recouvre en partie, parce que nous avons suivi les mêmes formes de socialisation, donc nous avons appris à détecter les mêmes choses, et donc à être familier dans un certain type de mobilier. Mais le mobilier des hachoirs, par exemple, en Amazonie, où j'ai passé quelques années, n'est pas du tout notre mobilier à nous, parce qu'il prête attention à autre chose que ce à quoi nous prêtons attention, et vice-versa. C'est ça l'ontologie, tout simplement. Et ça veut dire que, simplement, le monde est différent parce que chacun d'entre nous construit des mondes différents. Ce n'est pas simplement que chacun d'entre nous a une vision différente d'un monde uniforme, mais que le monde est effectivement composé d'une multiplicité de mondes différents.
Dans Par-delà nature et culture, on retrouve l'une de vos idées principales, qui est que l'on peut organiser la construction d'un monde à partir de 4 grands modèles, naturaliste, animiste, totémique et analogiste. Est-ce qu'il y en a qui peuvent cohabiter ?
Oui, bien sûr. D'abord, historiquement, il y a des phases de transition. Il y en a une qu'on connaît bien, c'est celle de la transition de l'analogisme qui a dominé le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance inclus, au naturalisme qui se met en place dans les textes au XVIIe siècle, dans les images plutôt, c'est ce que j'essayais de montrer dans les formes du visible. À partir du XVe siècle, on commence à être naturaliste, c'est-à-dire que Les imagiers, tant dans les pays du Nord que dans l'Italie du Nord, ont pris à cœur de montrer des choses qu'on n'avait pas montrées auparavant, en particulier la description de la nature et le tableau de l'âme aussi, à travers l'art du portrait.
C'est quoi le tableau de l'âme ?
Le tableau de l'âme, ce sont des portraits qui dégagent une force intérieure, c'est-à-dire dont le regard manifeste la singularité d'un individu. C'est quelque chose qui n'est pas lié au progrès technique, mais qui est lié à une façon différente de regarder les individus, qui se met en place à ce moment-là. Et les premiers portraits que je trouve fascinants, qui sont ceux de... Alors, il y en a d'autres, bien sûr, en Italie du Nord, mais il y en a que je trouve extraordinaires, sont ceux de Robert Campin, qui est un peintre flamand du début du XVe siècle, qui ne dissimule nullement les imperfections. Ce n'est pas du tout la grande portraiture impériale des bustes de l'Empire romain, où l'on va célébrer soit des types, soit des personnages publics, le philosophe avec une barbe, par exemple, ou des choses comme ça. Là, véritablement, on insiste sur le caractère complètement singulier des humains. Ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est la naissance de l'individualisme.
Et d'ailleurs, justement, je vous avais demandé, Philippe Descola, une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi un tableau du primitif flamand Robert Campin au musée de Dijon, Nativité. Et sur ce tableau, la position des personnages est remarquable, puisqu'il y a Jésus bébé par terre, mais il y a une vache qui est bien plus mise en valeur que Jésus, qui est derrière des barreaux de bois cassés.
Absolument, c'est un tableau qui est, à mon sens, vous parliez tout à l'heure, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de la peinture, de l'hybridation, au fond, est-ce qu'il y a coexistence entre l'analogisme et le naturalisme ? Eh bien, ce tableau montre très bien une phase de transition, puisqu'on est dans une scène religieuse, c'est une nativité, il y a les bergers, il y a les sages-femmes, il y a toute une histoire, il y a Saint-Joseph, mais il y a une obsession dans la description, dans la restitution des moindres chatoiements des vêtements, dans le regard effectivement des animaux, dans la construction de la grange et dans un paysage aussi absolument étonnant qui est sur la droite de ce tableau. C'est pas un très grand tableau, mais il contient une multitude de détails qui sont absolument fascinants et qui montrent bien la transition de l'analogisme. L'analogisme, c'est quoi cette idée qui est caractéristique au Moyen-Âge ? C'est que, au fond, ça peut être traduit par l'idée de la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire que le monde est composé d'un très grand nombre d'entités, d'éléments, de situations qui sont en lien les uns avec les autres par des formes de correspondance ou par des hiérarchies. Et le naturalisme va abolir cela et va extraire, au fond, les humains de cette grande chaîne pour en faire quelque chose d'à part.
Et aussi chez les hachoirs, comme on va le voir dans quelques instants, puisqu'il n'y avait pas d'hiérarchie chez eux.
Non, il n'y avait pas d'hiérarchie, mais pour des raisons différentes que celles de l'analogisme, disons.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Vous dites ceci, pour plusieurs ethnologues, et pas seulement pour moi, la vocation ethnologique fut peut-être en effet un refuge contre une civilisation un siècle. Mais quand vous décidez de devenir ethnologue, vous êtes très jeune, vous avez 20 et quelques années. Alors, déjà vous étiez en lutte, en guerre contre la civilisation, contre le siècle, vous étiez déjà mal dans ce siècle ?
J'étais à la fois, même tout enfant, épris du passé, et épris de la nature, et d'une nature aussi intacte qu'on pouvait la trouver. Et je crois que derrière cette vocation ethnologique, il n'y a pas eu seulement le malaise dans le siècle, la curiosité pour les hommes, mais aussi le désir de vivre dans une nature qui était encore telle qu'elle pouvait exister il y a des millénaires, ou des dizaines et même des centaines de millénaires.
C'est Claude Lévi-Strauss qu'on entend dans Apostrophe de Bernard Pivot en 1988. Philippe Descola, évidemment, vous ne pouvez pas échapper à une archive de Claude Lévi-Strauss. Vous avez d'abord étudié la philosophie à l'ENS de Saint-Cloud auprès de Maurice Godelier, puis l'ethnologie à l'Université de Paris 10 et à l'École pratique des hautes études. Et votre thèse était sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Vous avez ensuite dirigé son laboratoire d'anthropologie sociale. Et dans le cahier de Lerne, il y a une très tendre correspondance entre vous deux, et je pense à une des lettres où il vous corrige gentiment, enfin un peu sévèrement aussi, sur une expression que vous employez dans un de vos livres après vous avoir félicité, et c'est demi-pénombre.
Oui,
il n'est pas content.
Non, il m'a fait quelquefois des remarques comme ça. Dans ma thèse, j'avais parlé d'un bissac pour désigner ces petits sacs que les Amérindiens portent en bandoulière. Et il m'a fait remarquer qu'un bissac, c'était une sorte de gypsière où il y avait deux poches. voilà, il a été très attentif à ces questions de vocabulaire et de langue, juste titre.
Quand je reçois des historiens, je leur demande souvent si l'idée répandue selon laquelle le monde était mieux avant est vraie, car leur vision permet un recul salutaire. Et de la même manière, bien que vous voyez et soyez conscient des dégâts universels causés sur notre monde par le capitalisme industriel, la pluralité d'organisations humaines que vous avez en tête vous permet, Philippe Descola, d'imaginer que des solutions ou des voies alternatives sont possibles. Consolez-nous un peu ou donnez-nous un peu d'espoir.
C'est-à-dire que j'en vois, par exemple, dans les territoires alternatifs qui se sont développés, dans les ZAD par exemple, dans les luttes écologiques qui se sont développées en Europe, contre des projets d'aménagement intempestifs, coûteux et inutiles, et qui ont abouti à ce que des gens se réunissent qui ne se connaissaient pas nécessairement avant, qui n'étaient pas de culture rurale, si je puis dire, et qui se sont identifiés profondément au milieu qu'ils défendaient, au point de vouloir y faire leur vie en commun, et en commun en refusant, au fond, tous les impératifs du capitalisme, c'est-à-dire en partageant le travail, en partageant les fruits du travail, du maraîchage, de l'élevage, de la culture du blé, et en inventant des formes de communauté que je connaissais pour avoir partagé la vie d'Amérindiens en Amazonie, ou pour avoir lu, comme tout anthropologue, beaucoup sur les populations autochtones de par le monde, mais que je trouvais admirable de voir se reproduire et se recréer face à la situation écologique et catastrophique que nous traversons et à la grande catastrophe vers laquelle nous dirigeons.
Bon, c'est mi-figue, mi-raisin comme consolation.
Il y a des graines qui germent, puisque la métaphore végétale joue un rôle important dans ces affaires. Il y a des graines qui germent et qui sont importantes, mais je pense aussi que chacun d'entre nous doit se mobiliser pour faire advenir des formes de démocratie plus participative, des façons pour les citoyens de faire entendre leur voix qui ne soit pas uniquement à intervalles réguliers dans une urne, parce que ce sont des choses qui suscitent à l'évidence, les élections aux États-Unis le montrent, la frustration et la rage. Au fond, la participation quotidienne, ou en tout cas régulière, à la vie publique, est quelque chose qui donne à chacun le sentiment de ne pas être un pion isolé à l'intérieur d'un vaste système qui ne prend pas garde à lui.
Nos oppositions de gauche restent fidèlement dévouées à l'Union soviétique et à l'international communiste par un autre dévouement, par toute une autre fidélité que la majorité de la bureaucratie officielle. L'ouvrier qui se tient pour un communiste, mais qui s'est nourri de racontars, qui n'étudie pas des documents, ne vérifie pas par lui-même les faits, ne vaut pas grand-chose. Non, il ne vaut pas grand-chose. C'est sur des gens pareils que Lénine a forgé sa formule dure. Celui qui croit à la parole dans la politique n'est qu'un idiot sans espoir.
En 1979, Yves Mourouzi présentait une archive inédite et posthume d'un discours de Léon Trotsky en français, dont nous n'avons hélas pas la date, Philippe Descola, dans les années 70. Vous avez vent des idées de Mao, mais le trotskisme vous semble une position plus raisonnable. Trotsky vous fascinait. En quoi ?
Trotsky, c'était le révolté permanent, la révolution permanente aussi, pour reprendre le titre d'un de ses livres. C'était quelqu'un qui avait essayé, avec les autres bolcheviks, de créer un monde nouveau, mais qui s'était trouvé peu à peu marginalisé et bientôt en butte à la persécution de Staline. Et qui donc, pour quelqu'un de ma génération, représentait une façon d'envisager un futur alternatif, méthodiquement conçu par la création d'un parti d'avant-garde comme le parti bolchevique, et puis au fil du temps, et notamment du fait de mon séjour en Amérique du Sud et de ma fréquentation des populations autochtones, je me suis rendu compte que c'était un projet qui ne correspondait pas du tout à la phase historique dans laquelle nous étions et qui, de plus, avait un côté grandiloquent. Même si la fin du capitalisme paraît utile et nécessaire, c'est pas par ce moyen-là que je pense qu'on peut y parvenir. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'en ai pris conscience et petit à petit, je me suis éloigné de mes camarades trotskistes de l'époque.
Et d'ailleurs, quand vous vous référez à un penseur politique, c'est pour son livre Le Moins Politique, Les Manuscrits de 1844 de Marx, dans lequel il y a des intuitions extraordinaires sur le rapport à la nature. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot, Philippe Descola, sur vos deux surnoms, puisque le premier, celui de quand vous étiez militant trotskiste, c'était Andreas, un héros de roman. J'aimerais savoir de quel roman il s'agit. Et ensuite, avec les Amérindiens, c'était Anchoumir pour votre épouse, et pour vous, Iripi Yakoum, singe hurleur. On veut en savoir plus.
Ben, j'avais un autre surnom, c'est à l'école normale supérieure, on m'appelait l'Emplumé, parce que
c'est moins poétique.
Mes camarades philosophes trouvaient peu sérieux l'intérêt que j'éprouvais pour l'ethnologie déjà. Et donc la distance que j'entretenais avec l'épistémologie, la métaphysique classique, etc., je lisais beaucoup néanmoins, bien sûr, comme tout étudiant en philosophie, mais je trouvais aussi un grand plaisir à... C'est ça qui m'a fait devenir anthropologue, à comprendre comment des expériences collectives de pensée, à travers des institutions qui paraissent à premier abord bizarres, exotiques, peuvent constituer des avancées philosophiques aussi. Voilà, donc c'est l'un de mes prénoms. Iripi Yakoum. C'était Iripi, c'est la traduction... En achuar de Felipe en espagnol, puisqu'il n'y a pas de L dans cette langue, ni de F d'ailleurs. Et enfin, les phonèmes n'existent pas, ces phonèmes n'existent pas. Et Yakoum, c'est le singe hurleur, parce que j'avais une barbe rousse.
Et vous hurliez ?
Les singes hurleurs, c'est des singes qui sont qui vivent pas très loin. Ils ne sont pas trop inquiets par les humains, et ils sont quelquefois très bruyants, et donc, au fond, les singes hurleurs constituent une sorte d'extension de la vie sociale chez les Achuar. Mais c'était aussi un nom traditionnel.
Il y a quelque chose de fascinant, c'est que vous étiez là-bas avec votre épouse, et au début, vous ne compreniez absolument rien. Et vous avez commencé à comprendre en discutant avec les gens de l'interprétation qu'ils donnaient à leurs rêves.
Oui. Alors, c'est une tâche qui, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés, occupe pas mal le temps. Dans cette société, ça, on se réveille avant l'aube pour discuter les rêves de la nuit parce que ils permettent de prévoir au fond le genre d'activité favorable ou défavorable en fonction des rêves que l'on a pu faire. Donc il y a une oniromancie caractéristique de beaucoup de sociétés par ailleurs, mais il y a aussi des rêves qui sont des rêves plus littéraux dans lesquels des non-humains ayant forme humaine viennent se présenter au rêveur pour lui délivrer un message. Et c'est ces rêves-là qui ont commencé à attirer mon attention et m'ont amené à comprendre que, vous le disiez tout à l'heure, je l'ai écrit, la nature n'existe pas. La nature n'existe pas pour les Achuar parce que des plantes et des animaux qui viennent vous voir dans votre sommeil sous forme humaine pour dialoguer avec vous, on peut pas dire que ce soit la nature. Ça, en tout cas, ça ne correspond pas à la définition caractéristique que l'Occident a donnée. Et donc, pour les Achuar, il n'y avait pas de nature. Il y avait que des partenaires sociaux à plumes, avec des poils, des pelages, des écailles, des feuilles, des racines, etc. Et puis d'autres qui étaient des humains, mais qui constituaient un ensemble... un peu hiérarchisé en effet, en ce sens qu'il y avait il y a un terme en achuar qui est aens, qu'on peut traduire par personne, c'est-à-dire tout être avec lequel une communication est possible, parce que cet être a une intériorité, une capacité de symbolique, peut communiquer, notamment dans les rêves, ou en tout cas on peut s'adresser à lui aussi par des incantations magiques. Mais à l'intérieur de cette hiérarchie, il y en a qui sont des êtres complets parce qu'ils parlent en tout temps, la langue des humains.
Il y a une anecdote que vous relatez dans le cahier de Lerne, dans un texte inédit de vous, Philippe Descola, où un homme a des aventures extra-conjugales avec une loutre. Une loutre qui devient femme. Et vous n'élucidez pas d'ailleurs la réalité de cette vision. On ne sait pas si c'est un rêve ou...
Ben, c'est-à-dire que je lui ai posé la question en bon rationaliste, évidemment, et la réponse qu'il me fait, c'est qu'il me dit « je l'ai bien vu ». Alors, je l'ai bien vu, c'est que le terme « voir », enfin, la traduction en français recouvre à la fois la vision ordinaire et la vision qu'on obtient dans les rêves et la vision qu'on obtient en prenant des hallucinogènes aussi. Donc, il est difficile de trancher. C'est un commentaire que je faisais à un texte de Pierre Michon, qui évoquait de façon plus concrète au fond, les rapports entre une Pasiphae et un taureau blanc.
Texte qu'on retrouve aussi dans le cahier de Lerne.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec l'anthropologue Philippe Descola. Nous sommes en ce moment même en direct dans le passé avec les Amérindiens Achoar. Nous voyons des femmes s'occuper des plantes comme s'il s'agissait d'enfants. Nous voyons des créatures végétales, animales ou humaines parler, avoir des relations sans hiérarchie. Et je voulais savoir si ça vous avait influencé, vous, Philippe Descola, puisque vous dites dans la revue 21 en 2016, quand on sort d'une maison et que la maison la plus proche est à 2 jours de marche, les interlocuteurs les plus proches ne sont pas des humains, mais des plantes et des animaux. Cela vous ouvre un autre rapport au monde.
Oui, bien sûr. C'est, à vrai dire, vous aviez passé tout à l'heure l'extrait de l'entretien de Lévi-Strauss avec Pivot. Et j'avais moi aussi, en partant en Amazonie, une fascination pour... ce que j'appelais encore la nature, la forêt tropicale que j'avais découverte plutôt au Mexique dans la région La Candone du Chiapas, et ça, c'est quelque chose qui me fascinait parce que au début c'est un tohu-bohu, on ne discerne rien, il y a une diversité végétale considérable, il n'y a pas autant d'animaux qu'on pourrait l'imaginer d'ailleurs, il y a surtout des insectes. Et c'est vrai que dans ce genre de milieu, les humains, ils sont pauvres en humains. Et donc la sociabilité, alors c'est pas une explication causale bien sûr, mais la sociabilité a tendance à se déployer au-delà de la sphère humaine, parce que les interlocuteurs les plus quotidiens, ce sont en effet des plantes, des animaux, des esprits aussi, bien sûr.
Et vous y croyez aux esprits? Vous en avez senti, vu?
Ah oui, c'est les esprits, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'ontologie. Quand on a appris à détecter des esprits, on retrouve leurs traces, on entend des bruits bizarres. Par exemple, en forêt, on entend un bruit alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de plante, ou bien tout d'un coup, il y a un animal au contraire qui s'arrête et qui vous regarde alors qu'il devrait fuir. Il y a beaucoup de manifestations de ce type-là qui sont des témoignages d'une présence non humaine avec une intention, toute la question de savoir si l'intention est bienveillante ou malveillante.
Et vous avez vous-même des fréquentations chaque matin, notamment celle d'un rouge-gorge très fidèle.
Oui, oui, j'ai la chance d'avoir un bureau au fond d'un jardin et le matin, nous commençons notre journée l'un et l'autre par des salutations réciproques.
Comment elles se manifestent-elles? Elles sont silencieuses? Vous les énoncez à voix haute?
Non, je lui dis bonjour mon petit gars. Est-ce que tu as bien passé la nuit? Et voilà.
Et il vous donne des nouvelles?
Oui, alors il réagit en effet en chantant à tue-tête, et ça me réjouit pour la journée.
Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarai et répétai, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elle devrait être plus éblouissante, plus instable, plus... plus subtile, plus labile, plus insaisissable, plus oscillante, plus tremblante, plus martyrisante, plus fourmillante, infiniment plus chargée, plus intensément belle, plus affreusement colorée, plus agressive, plus idiote, plus étrange.
L'une des rares archives où l'on peut entendre la voix d'Henri Michaud en introduction du documentaire « Images d'un monde visionnaire » sorti en 1963. Philippe Descola, en Amazonie, vous lisiez « Ecuador », son journal de voyage. Y trouviez-vous des résonances avec ce que vous viviez alors ?
Alors, « Ecuador », c'est un très beau journal de voyage. Il se trouve que Michaud est allé en Équateur alors qu'il avait un peu plus de 20 ans, invité par un camarade qui était le fils d'un riche propriétaire d'une hacienda dans les montagnes de l'Équateur. Et il a passé quelques mois, il a décidé de revenir par les rivières, ce qui était à l'époque une expédition extraordinaire. Donc il a descendu le Napo jusqu'au Marañón, le Marañón devient l'Amazone, et il est descendu comme ça jusqu'à l'embouchure de l'Amazone. Et Ecuador, c'est non seulement, bien sûr, une petite partie du séjour qu'il a fait en Équateur, mais c'est aussi le récit de cette descente de la rivière depuis quasiment les sources, en tout cas le haut Napo, jusqu'à l'embouchure. Et il y a une anecdote que je trouve merveilleuse dans son livre. Il est sur un petit vapeur. Et donc à la fin de son périple, et il arrive à Manaus et il se promène dans la ville. Il y a un jardin avec un kiosque au milieu, des fleurs, et il y a une femme qui est là avec lui, qui est montée peu auparavant, qui vient de la forêt, et qui dit « Ah, enfin la nature !» Et effectivement, c'est chacun sa nature, et la nature pour cette dame, c'était la nature civilisée des jardins publics du Brésil.
Votre père était historien spécialiste de l'Espagne et de l'Amérique latine. Vous avez baigné dans les choses hispaniques depuis l'enfance. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'influence de votre grand-père qui fut prépondérante, parce que j'ai trouvé que c'était un personnage absolument fascinant, un médecin ophtalmologue qui lisait le latin, le grec, et s'était mis sur le tard à apprendre le sanskrit et qui lisait la plupart des langues européennes, mais aussi botaniste amateur. Extraordinaire personnage.
Oui, c'était un de ces gens cultivés à l'ancienne, qui s'intéressaient à tout, qui avaient une très grande curiosité d'esprit, qui était un homme assez rigoureux par ailleurs. Il avait un tempérament janséniste, sinon une affiliation religieuse véritable. Mais les promenades avec lui dans la montagne, puisque nous allions marcher dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées ariégeoises, d'où était originaire ma famille paternelle, étaient un enchantement, parce qu'il identifiait à la fois les plantes que nous croisions le long des chemins, et en même temps, il me rendait familier avec la mythologie grecque, avec les grandes histoires des héros et des dieux. Et pour moi, la nature était étroitement liée à ce savoir, au fond, très ancien, qui m'avait été transmis par mon grand-père, que j'ai continué ensuite à cultiver. Et c'est on revient là encore à ce que disait Claude Lévi-Strauss tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un mélange de goût pour la découverte d'un monde végétal et naturel relativement préservé, et en même temps la jonction de ce monde avec des racines très anciennes. Et évidemment, c'est une prédisposition à l'anthropologie.
Là, vous avez évoqué l'obédience religieuse de votre grand-père, et je voudrais vous interroger, vous, Philippe Descola, sur votre rapport au sacré, à la transcendance.
Alors, j'ai, avec un plaisir non dissimulé, découvert tardivement, chez les Atchouars, une société qui était complètement indifférente à la transcendance. Et j'ai compris à quel point la transcendance était un poids qui pesait sur nos épaules, puisque il y a toujours une puissance extérieure et supérieure à nous qui vient, au fond, soit nous enjoindre de faire de telle ou telle chose, soit définir ou prédéfinir notre trajectoire biographique. Et dans les sociétés immanentes, c'est-à-dire à l'inverse de des sociétés transcendantes, comme les Hatchoirs, au fond, la vie sociale, elle se déploie au jour le jour, précisément dans les interactions, non seulement avec les humains, mais avec les non-humains, dans un monde qui n'est pas... dans lequel il n'y a pas une instance, un élément qui va dominer sur d'autres. Et je me suis rendu compte à ce moment à quel point la transcendance religieuse des religions du livre jouait un rôle important dans ce que j'ai appelé le naturalisme, à savoir le fait, par exemple, que la société est devenue quelque chose de transcendant aussi, c'est-à-dire dans la théorie sociologique et même maintenant dans le discours ordinaire, la société apparaît comme quelque chose de supérieur et extérieur aux membres qui la composent. Et c'est une totalité agissante, en quelque sorte. Et cette façon de voir les choses, évidemment, rend la vie quotidienne plus difficile, parce qu'on a le poids de ses ancêtres et de la transcendance divine sur le dos en permanence.
Et en même temps, vous soulevez le fait qu'il n'y ait pas de société au sens où on l'entend chez les Hatchoirs, et que ça barde pas mal chez eux. C'est-à-dire que vous décrivez quand même des rapports conflictuels très fréquents.
Oui, c'est justement, comme il n'y a pas d'instance extérieure, oui, à laquelle se référer, au fond, on invente à chaque instant le type de société dans laquelle on veut vivre, et donc le type de rapport que l'on veut entretenir avec les autres. Alors bien sûr, il y a des contraintes, mais c'est des contraintes qui sont très générales. C'est-à-dire que les frères ont tendance à s'unir dans les conflits contre les parents par alliance, par exemple. Mais ça n'est pas toujours automatique. Et donc, la vie sociale est beaucoup plus pleine de surprises, au fond, que chez nous, parce qu'il n'y a pas ces institutions rigides qui viennent définir des comportements. On négocie en permanence, au fond, le statut que l'on a et les rapports que l'on entretient avec les autres. C'est très manifeste chez les hommes, où il y a... quelques personnages qu'on appelle alors c'est la traduction de l'Hatchoir, des grands hommes en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui ont une capacité d'influer par leur capacité oratoire, leur charisme, leur courage aussi comme guerrier, leur pouvoir de persuasion, mais ces gens-là ne peuvent jamais compter définitivement sur la faction qu'ils ont constituée, parce qu'elle peut se débander à tout moment, et qu'il n'y a pas de groupe préconstitué dont ils pourraient s'emparer. C'est une bonne façon de lutter contre l'émergence de l'État, sans doute, mais qui rend pas toujours la vie facile au quotidien.
Cambio, sí.
Descola, c'est votre choix musical qu'on entend, la chanson cubaine Santa Barbara de Celina et Reutilio. On entend dedans la mention de Chango. Chango, c'est le dieu du tonnerre dans la Santeria, non ?
Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, parce qu'elle est une merveilleuse hybridation entre une tradition chrétienne. C'est une des choses que j'apprécie en Amérique latine. Santa Barbara, qui est un personnage déjà très ambigu dans la tradition chrétienne, puisque c'est une vierge qui a été torturée et mise à mort parce qu'elle refusait un mariage avec un païen, mais qui en même temps est la déesse des artilleurs, donc de l'explosion, et en même temps ce personnage est l'équivalent de Chango, qui est de ces divinités Yoruba des religions afro-américaines, dont la Santería à Cuba est une des manifestations. Et par ailleurs, c'est une musique que il faut être mort pour pas danser dessus, si je puis dire.
Je pense que même les morts dansent dessus. Qu'est-ce que ça fait quand, de son vivant, on a un cahier de Lerne ? Parce que c'est pas si répandu que ça. Est-ce que vous avez été ému, Philippe Descola, par l'assemblage de tous les documents réunis dedans ?
Oui, bien sûr. C'est lorsque Laurence Tacou m'a proposé de consacrer un cahier de Lerne à ma personne, j'ai d'abord trouvé que c'était un peu immodeste. Et puis, les deux éditeurs, Grégory de la Place et Salvatore D'Onofrio, ont fait un très bon travail. On a vu ensemble les suggestions de participation. Il y a beaucoup de gens que j'aurais aimé réunir dans ce compagnonnage intellectuel et affectueux aussi. Certains d'entre eux n'ont pas pu y participer. Mais ça, j'ai l'impression de m'être fait une sorte de petite cohorte, parce que certains des auteurs que j'admirais, je ne les connaissais pas. Et donc j'ai été très agréablement surpris lorsqu'ils ont accepté de participer à ce numéro. Voilà, donc ça fait partie de ces institutions, les cahiers de Lerne, un peu comme en France, il y a le discours de réception à l'Académie française, la leçon inaugurale au Collège de France.
La Pléiade.
La Pléiade, le sermon de Carême, c'est des choses comme ça. Et on peut, si l'on veut, c'est pas mon cas, mais marquer les accomplissements d'une vie à partir de ces petites satisfactions, disons.
Dernière question, vous qui avez tant enseigné, tant transmis, j'imagine que vous êtes aussi un éternel étudiant. Qu'apprendriez-vous aujourd'hui ?
Oh, mais j'apprends tous les jours, c'est-à-dire que, au fond, j'ai beaucoup aimé enseigner au Collège de France, parce que la règle, au fond, du Collège de France, c'est qu'on apprend, on enseigne ce que l'on est en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas un savoir constitué, mais ce que l'on est en train de découvrir. Alors je n'enseigne plus maintenant, je le fais à l'étranger, je donne des cours dans des universités à l'étranger, mais je continue à apprendre, et j'apprends tous les jours. Et je pense que je n'imagine pas une autre vie. C'est ce qui donne la force d'avancer tous les jours, au fond.
Merci beaucoup, Philippe Descola.
Merci à vous.
Le cahier qui vous est consacré aux éditions de Lerne, dirigé par Grégory de la Place, qui nous a rendu visite il y a quelques semaines, et Salvatore D'Onofrio, est sorti le 25 septembre dernier. Vous serez en dédicace le 6 novembre à la librairie Compagnie à Paris et le 29 novembre à la librairie Mola à Bordeaux. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal, Irma Daniche et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Jérôme Ragano.